La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Alléluia. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Pendant qu'on chantait comme ça, ça va nous encourager. Ruth a reçu une vision.
Nous, on était derrière, donc on n'entendait pas du tout ce que Michel disait. Ce que j'ai vu, bon, vous avez dû tous lire les livres d'Astérix. Voyez les armées romaines. Elles ont tous leurs boucliers, leurs grosses chaussures, boucliers en haut, boucliers en bas, à droite, à gauche. Elles sont tous unies. C'est-à-dire que personne ne peut rentrer dans leur rang. Et quand on est comme ça, là, on est tous animés par le même chant, par le même esprit. On est tout un bloc. Donc, à chaque fois qu'on est comme ça, en ce chant-là, on est réunis, unis dans la même chose. Et là, on peut gagner. Et personne ne peut aller contre nous. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Avant de commencer l'enseignement, on a deux témoignages forts. Je voudrais rappeler que si vous avez des témoignages, parce que c'est édifiant, ce sera aussi sur les cassettes, ça peut édifier, ça peut fortifier. Et donc, on a deux personnes qui ont manifesté leur accord pour témoigner par rapport à des choses qu'ils ont vécues depuis deux jours. On demande des témoignages forts, puissants, dont les gens ont été d'ailleurs souvent témoins, hein, et qui sont vraiment édifiants pour tout le monde, pas de faire de venir pour des témoignages de ce que vous avez vécu il y a 15 ans. D'accord. Alléluia. Je vais appeler Stéphanie, c'est toi? Tu vas venir témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi depuis ces jours-ci. Et puis après, on aura Patricia. Amen.
Esprit de timidité. Parce que le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Amen.
Donc moi, je m'appelle Stéphanie. J'ai été amenée par ma tante Nicole, pour ceux qui la connaissent, et merci. Et donc, en fin de compte, hier, j'ai entendu une voix dans ma tête, donc je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, qui me demandait d'aller à la croix, derrière, assez longuement. Donc, mon esprit de timidité, je n'ai pas osé sur le coup, et j'avais la voix qui revenait dans mon... Voilà. Et donc, j'ai dû aller... m'agenouiller devant la croix pour demander pardon pour mes péchés, pour les péchés de ma famille qui avaient touché à l'occultisme. Donc je connais bien le sujet. Sinon je souffrais d'agoraphobie, d'angoisse assez sévère qui me donnait des idées de suicide. Et depuis le début du séminaire, je rentre dans les ascenseurs, je prends les transports en commun, je sais pas ce qui m'arrive. Voilà, et puis merci. Agoraphobie, claustrophobie, voilà. Les deux. Carrément. Et des angoisses, vraiment.
Alléluia! Ça va changer ta vie. Je ne sais pas si tu sais que l'esprit de timidité vient de se faire les ailes aussi. Amen. Alléluia. Viens, Patricia. Alors, Patricia, hier soir, on l'avait plutôt en position allongée que debout.
Donc moi je suis vraiment très très contente, très heureuse parce que ce que j'ai vécu est vraiment merveilleux et puis c'est la confirmation que Jésus est là, quelles que soient nos souffrances, quoi qu'on ait vécu de terrible, quel que soit ce qu'on a vécu. Et en fait, donc moi hier soir, donc j'ai pu dormir 7 heures. Sans voir d'esprit, sans voir de mauvaises choses, parce qu'en fait, ça m'arrivait toutes les nuits, et puis jamais suffisamment de sommeil, donc une fatigue permanente lorsque je prie pour tout. Et puis aussi le fait de cacher ce qu'on est, en fait, hein, parce qu'on se cache. Et donc, en fait, je suis très heureuse parce que... Donc pour être très court, j'ai baigné dans la sorcellerie depuis mon enfance, non pas que je l'ai pratiqué initialement, tout simplement parce que beaucoup de personnes ont fait de la sorcellerie sur moi, énormément, et donc à l'âge de 31 ans, je me suis retrouvée dans un travail, mon premier travail déclaré, parce qu'en fait, les années précédentes étaient des années de malheur. Et dans ce travail, j'ai été confrontée à une personne qui s'est mise à faire de la sorcellerie sur moi, me détruire pendant 7 ans. cet an de sorcellerie tous les mois, tous les jours après de la semaine. Et en fait, comme j'ai, bon, j'avais perdu aussi la tête, j'étais dans le chaos complet. Complet, c'est-à-dire incapable de faire quoi que ce soit, vraiment. Et le Seigneur m'a conduit un jour à une sœur, et je cachais ça aussi à mon mari. En fait, quand vous n'avez plus votre tête, quand les gens vous parlent, mais vous ne comprenez rien, vous dites juste oui, vous secouez la tête, et vous passez à autre chose, ou vous évitez de voir les personnes. En fait, on arrive comme ça à survivre. Et la première délivrance qui a été très 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 importante pour moi, ça a été il y a quelques mois. Le Seigneur m'a délivrée de l'esprit de mort, parce que l'esprit de mort, en fait, vous êtes omnibulée par le suicide. Mais heureusement, je lisais la parole de Dieu depuis un certain temps, et donc je savais qu'on ne pouvait pas mettre fin à nos jours. Donc Satan n'a pas pu me détruire comme ça. Et par la suite, lorsque le Seigneur m'a délivrée de l'esprit de mort, il a continué son travail. C'est un travail par étapes. Je crois qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre que quand Satan se déchaîne derrière certaines personnes, je l'ai comprise hier, c'est qu'il y avait un plan de Dieu qui était là, qui est un plan merveilleux. Et j'ai compris que le Seigneur avait un plan merveilleux pour moi. Et malgré toutes ces souffrances, parce que je peux dire que sur 39 ans de vie, j'ai 39 ans, j'ai eu très peu de joie. Très très peu de joie. Je vous dirais que même mon mariage, le jour de mon mariage, tous les invités ne sont pas venus. Et donc il a fallu inviter les voisins, et le Seigneur a trouvé des personnes pour venir le jour de mon mariage. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout ça. Et je veux dire, pour toutes les personnes qui vivent des choses, ce sont des malédictions qui sont dues effectivement aux ancêtres, à ce que nous avons fait, parce que moi aussi j'ai consulté des marabouts pour m'en sortir, pour leur demander de l'aide. Je vous dirais, la première chose qu'a fait le marabout, la deuxième fois que j'ai été le voir, il m'a envoûtée. Et grâce à Dieu, j'étais ruinée, donc il n'a pas pu me soutirer beaucoup d'argent, mais il m'a enfoncée, il a fait encore de la sorcellerie sur moi, parce que je ne lui apportais pas de l'argent. Et voilà. Voilà, je crois que le Seigneur m'a délivré. Alors, hier, il m'a délivré. Je pense que il y avait en moi des légions, plein de mauvaises choses. Je ne sais pas pourquoi. J'ai attiré tant de mauvaises choses. Voilà, et donc à mon avis, peut-être le fait que cette collègue de travail a fait de la sorcellerie pendant des années et des années, et puis...
Expliquez ce qui se passe, parce que son témoignage est intéressant aussi, il est édifiant. Il faut comprendre que les gens qui viennent d'un milieu sorcier où il y a eu beaucoup d'héritages ancestraux, c'est ce soir qu'on va parler des héritages ancestraux et comment en sortir. Les gens qui ont eu des héritages ancestraux, c'est comme s'ils étaient des aimants à sorciers. Et où qu'ils aillent, ils se retrouvent avec des sorciers. Et on dirait que les sorciers ont des petites antennes pour les détecter. Et quant à ton mariage où il n'y a eu personne, c'est parce que dans les ténèbres, il y avait eu des mariages. Il y avait des marabouts, probablement, qui t'avaient littéralement pris pour eux, comme épouse dans les ténèbres. Alors après, le mariage est une catastrophe, les trucs sont une catastrophe, où la personne reste célibataire, etc. On n'aura pas le temps, mais je vais tout de suite utiliser ce témoignage pour dire, ce sont des choses auxquelles on est confronté très régulièrement, des gens qui ont été littéralement sans arrêt harponnés. C'est pas de la paranoïa, ils sont littéralement dans le monde, c'est comme si dans le monde des ténèbres, il y avait des grandes antennes en disant « Venez, je suis bonne à... » Parce qu'ils ont été consacrés depuis des générations à cause de ce qu'ont fait les ancêtres. Satan a le droit légal de les récupérer, de se les approprier, et il utilise tous ses agents, Et ça, ce sont des cas relativement courants qu'on voit, tous les gens qui ont des gros héritages de sorcellerie. Amen.
Juste rajouter une petite chose, c'est que cette collègue de travail qui travaille avec moi, Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des agents de Satan. Cette femme, bon, est une Française, blanche. Et en fait, justement, le fait que les Français ne sont pas très au courant de ça, au travail, ça a été l'hécatombe. Quelqu'un qui ne lui plaît pas ou qui dit non pour tel travail, quelqu'un qui ne se soumet pas à elle, elle a fait ça sur une centaine de personnes. Il n'y a pas que moi. Sa famille est dans un état catastrophique, lamentable, son entourage. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'en ai parlé au travail. Et en fait, personne n'a voulu me croire. Donc, elle a pu continuer comme ça pendant des années. Bon, moi, après, j'étais incapable de réagir face à tout ça. Et c'est le Seigneur, c'est Jésus qui a fait son travail et qui m'a sortie de là. Et ensuite, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait... je m'en souviens plus. Voilà, mais bon, l'essentiel a été...
Amen. Oui, vous savez, si la parole de Dieu dit « Faute de connaissance, mon peuple périt », qu'en est-il des païens ? D'accord ? Mais dans le peuple de Dieu aussi, il y a des gens qui se font envoûter, marabouter, et comme ils ne connaissent pas ces réalités, ils sont désarmés pour combattre. Et il y en a qui en meurent, il y en a qui attrapent des maladies, ils ne savent pas d'où ça vient, mais attendez, les sorciers sont au milieu de nous. Hein. Il y en a peut-être un ou deux ici, cet après-midi, levez la main, s'il vous plaît. Mais il y en a, je suis sûr qu'il y en a. Il y en a toujours. Ils aiment beaucoup, mais vous voyez un peu. Je vais vous dire quelque chose. On l'a vu hier à travers l'histoire de Moïse. Oui, c'est vrai, j'ai l'autre micro. Bon, je reste un peu debout. On l'a vu à travers l'histoire de Moïse, quand Aaron lève son bâton. C'est que les sorciers peuvent faire des choses terribles, très lourdes, réelles. Ils sont absolument incapables de réparer les dégâts. Ils peuvent faire des tas de choses, ils ne peuvent pas réparer les dégâts. Et s'ils réparent les dégâts, c'est pour faire pire derrière. Comme elle le dit, elle va voir un marabout, puis elle se fait envoûter pour guérir de je ne sais pas quoi, elle se fait envoûter, et elle en rattrape 10 fois pire. Bon. La bonne nouvelle, c'est que notre Seigneur, il est capable de réparer les dégâts. Alléluia. Amen. Je voudrais passer le micro à Serge, qui a reçu une parole de connaissance aussi tout à l'heure.
Oui, alors... moi-même. C'est une parole pour un homme, en fait. Le Seigneur m'a montré un chalet et il y a une grande forêt, il y a des très grands arbres et le Seigneur dit à cet homme, il y a du bois à abattre, sors, j'ai mis la hache entre tes mains, c'est moi qui ai mis la hache entre tes mains, ouvre la porte et sors. Voilà.
La personne se reconnaîtra. Nous, on ne comprend pas toujours ce que le Seigneur veut dire.
Oui, c'est une... Enfin, à un moment donné, pendant la louange, je sais pour qui... En tout cas, il y a une personne, je sais à qui cette personne s'est adressée, mais le Seigneur, en fait, dit, tu te reconnaîtras, quoi, et ta foi va se reconnaître. En fait, ta foi va grandir parce que tu vas te reconnaître. C'est une parabole, quoi, qui est adressée à quelqu'un pour qu'il se reconnaisse et que sa foi se fortifie aussi à travers ça. Parce que Dieu lui dit, c'est moi qui ai mis la hache entre tes mains, c'est moi qui ai mis la hache.
Je voudrais juste avant de commencer aussi dire, parce qu'au fur et à mesure que le séminaire avance, on voit, on ajuste et on voit quel est le plan de Dieu. Alors, on donne des paroles de connaissance, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'avancent, qui ne sont pas concernés, ou peu concernés, qui s'avance presque à toutes les paroles de connaissance, alors qu'en général, la parole de connaissance s'adresse à une personne. Ça peut être très petit. On peut être concerné par le problème. Vous comprenez bien ce que je veux dire. On peut se reconnaître parce qu'on est concerné. Mais en général, la personne qui reçoit cette parole de connaissance, c'est « BOM !» dans son cœur. C'est pour elle. Et on le voit bien, il y a beaucoup de gens qui s'avancent. Nous ne pouvons prier que pour très peu de personnes. Vous voyez bien que le Seigneur, nous ne sommes pas dans un séminaire de délivrance des gens. Nous sommes dans un séminaire de formation à la délivrance. C'est pour ça aussi que nous changeons un peu les étiquettes pour qu'il y ait des personnes au fur et à mesure qui rentrent dans la prière, tandis que d'autres, il y a des personnes qui seront à toutes les... Parce que ce sont vraiment, je dirais, des professionnels de la délivrance, si j'ose dire cette chose. Ils sont vraiment des accoutumés. On a vraiment besoin de leurs dons, de leurs capacités, de leurs connaissances. Et puis, il y a des personnes qu'on lève un peu, comme ça. On leur donne des étiquettes pour la délivrance. ne vous blessez pas si on ne vous en donne pas une réunion, parce qu'on veut que d'autres se lèvent. Mais nous voulons aussi, je voudrais vraiment vous faire remarquer que tous les gens qui se lèvent comme ça, qui font barrage, en réalité, le Seigneur veut montrer la réalité, et je voudrais pouvoir commenter que les gens voient, même ceux qui restent assis, qu'ils voient ce qui se passe, parce que nous avons besoin de voir de nos yeux, Jésus a toujours fait cette délivrance en public, la réalité des monstres qui sont dans certaines personnes, qui aliènent totalement leur vie. Notre sœur qui vient de parler de sa claustrophobie, de son agoraphobie, je veux dire que sa vie est aliénée. Vous êtes bien d'accord? Patricia qui allait de lieu en lieu et qui chaque fois se fait harponner et puis qui n'ose parler de rien mais qui vivait dans l'anxiété, dans la terreur et puis la nuit qui entend, qui a, vous savez, c'est terrifiant hein, ce qui se passe même dans le milieu des chrétiens qui n'osent pas en parler de peur de l'incrédulité. Hein. Mais ce que je voudrais demander, c'est que vous avez remarqué que dans ceux qui s'avancent, il y en a certains qu'on appelle tout de suite pour la prière et il faut s'en occuper jusqu'au bout. Ça peut demander une heure à 4-5 personnes parce qu'il s'agit de grosses puissances. Dieu sait pourquoi il a choisi ce jour-là de délivrer une personne et l'autre à côté qui a aussi besoin de délivrance. Alors ne nous harponnez pas pour qu'on prie tous pour vous parce que vous allez voler l'œuvre que Dieu veut faire par rapport à certaines. Dieu choisit plusieurs personnes, nous avons besoin de toutes les équipes pour ces personnes. En plus, quand nous avons un rang de gens devant qui sont là à attendre pour la prière, ne croyez pas que vous allez être bénis en vous avançant. Il y a une habitude que moi qui me rend malade dans le corps du Christ qui a été, et je prie le Seigneur de pardonner tous les prédicateurs qui voient leur gloire et leur puissance dans le fait qu'il y ait des rangs qui s'avancent, qui avalent, tout le monde tombe par terre, tout le monde est content, il ne se passe rien et aucun changement. Amen. Dans leur vie. C'est pas les fruits de Dieu, ça. C'est du cinéma, c'est du spectacle, et ce n'est pas du tout, l'œuvre de Dieu. Jésus, il délivrait une personne, il y avait des rangs autour, il n'était pas là en train de passer les mains sur tout le monde tombait à terre, et puis paf, 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 et puis les gens sortaient en disant « je suis béni », « ah bon, on n'a pas le coup, ah ben je sais plus », et rien, aucun changement dans leur vie. Dieu est précis, Dieu est puissant, et quand il désigne des personnes, et on le voit tout de suite, parce que l'onction est là, et les personnes, le Saint-Esprit saisit littéralement, force les démons à se manifester. Et c'est pour ça que je fais avancer des gens en disant qu'une équipe s'en occupe. Si vous êtes là, on vous sent, je vous assure, moi ça me rend un peu malade parce que on est là, vous êtes tous en train de regarder ce qu'elle va m'appeler. Non mais laissez, c'est pas moi qui délivre les gens, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et en plus, sans compter qu'il y a des gens qui sont assis à leur place et que le Saint-Esprit veut libérer et on ne les voit pas parce qu'on a plein de gens qui nous harponnent. Ne venez pas nous demander la prière. On arrête ce cirque chrétien. On doit tous prier les uns pour les autres. On est là pour apprendre aux gens à prier les uns pour les autres. Et à se lever pour prier pour les autres. D'accord? Je suis un peu rude, mais je vous assure que je souffre de ce qui se passe dans le corps du Christ. Il n'y a aucun fruit. Alors, c'est pas de la faute de Dieu. C'est de notre faute. Et revenons toujours aux Écritures. Et nous n'avons qu'un seul modèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je suis un peu sévère dans mes paroles, mais je n'en poussais pas l'esprit pour le dire. Hein. Que nous ne prenions pas la bénédiction et la délivrance en nous imposant, en nous forçant. J'ai plusieurs personnes qui croient bien faire. Elles ont l'habitude. Il faudrait que tu viennes prier pour un tel. Mais laissez, c'est le Saint-Esprit qui désigne, on les voit. Il y a une telle onction que les gens, on les voit, ils sont secoués, ils commencent à trembler, ils commencent à avoir des larmes qui coulent, et ça peut être aussi bien sur leur chaise. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Vous vous sentez concerné par la parole de connaissance, vous avancez. Mais si vous voyez qu'il ne se passe rien, que vous n'avez aucune manifestation physique qui se produit, surtout si on prie pour vous, etc., repartez à votre siège. Laissez la place pour ceux que le Seigneur, ce jour-là, veut libérer et guérir. Parce que la guérison et la délivrance sont complètement liées. Amen. Voilà, j'ai fait mon petit numéro. Amen. Non, mais je sens qu'il y a tellement de choses dans le corps de Christ qui ne sont pas justes, dans notre manière de fonctionner. Quand les fruits ne sont pas bons, on se remet en question. Amen. Moi y compris. Hein. Si vous voyez des choses qui ne sont pas justes, vous venez me dire, attends Michel, tu dérailles complètement. C'est le bienvenu. Je vais donner aussi ce que j'ai vu. J'ai vu une personne, alors j'ai pas eu l'interprétation. Il y a deux interprétations possibles, et peut-être parce que ça concerne plusieurs personnes qui sont concernées par ça. J'ai vu quelqu'un qui avait plusieurs montres au bras, et elle en ajustait de nouvelles. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait un gros problème avec l'heure. Quand Dieu monte, c'est qu'il s'agit littéralement d'oppression. Alors, soit que cette personne, quoi qu'elle fasse, ne peut jamais arriver à l'heure. C'est comme si tout le temps, il y avait des obstacles pour qu'elle puisse faire les choses, surtout les choses importantes, et que ça lui fait manquer des rendez-vous importants dans sa vie, à tous les niveaux. Ou qu'au contraire, parce que ça arrive aussi, quelqu'un qui est obsédé par l'horaire, tout le temps, la course contre la montre. Vous savez, on dit souvent, c'est toujours la course contre la montre. Il y a des gens qui font de la course contre la montre du matin au soir, qui n'ont jamais eu le temps même pour prier, pour s'adresser à Dieu, pour être dans la paix avec le Seigneur. Et là, vous savez, du temps de Pharaon, il est dit que Pharaon couvrait les Hébreux de tâches, hein, du matin au soir, pour qu'ils aient pas le temps de penser à leur Dieu. Il n'a pas changé. On procède toujours de même. Donc il y a des gens qui sont sous des véritables jougs de sentir tout le temps, de courir après le temps, courir après le temps, courir après le temps, et c'est pas de Dieu, hein, et ils n'ont jamais de temps de penser à leur Dieu. Amen. Et donc de prendre le temps, de se mettre devant le Seigneur, et justement que de faire ce que, parce que la parole de Dieu nous dit, Seigneur, tu nous mets en nous la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Je crois que c'est dans Isaïe 24, si je me trompe pas. Et donc, quand on fait ce que Dieu nous demande, on n'est pas dans la course, on n'est pas dans la corrida. Hein. Paul dit, travaillez paisiblement. Si on est tout le temps dans la course, c'est l'ennemi. Bon, ça c'est la première que j'ai vue. Ensuite, j'ai vu quelqu'un qui était allongé au sol pour prendre des haltères et qui faisait des efforts démesurés. Il avait tellement développé ses bras pour porter les haltères qu'il n'en avait même plus de jambes. Et le Seigneur dit à cette personne, tu prends des fardeaux que Dieu ne t'a pas donnés parce que tu as besoin tout le temps de te prouver quelque chose et de prouver quelque chose aux autres. Lâche ces fardeaux qui ne sont pas de moi pour que tu puisses prendre ce que j'ai pour toi et qui sont légers. Tu n'as rien à prouver et tu n'as rien à te prouver. Amen. Alors, j'ai vu un cheikh arabe. Et j'ai vu, il était monté sur une monture, et puis je voyais à côté de lui une épouse, puis deux épouses, puis trois épouses, puis quatre épouses, puis cinq épouses, six épouses, sept épouses. Il y a quelqu'un ici qui a un héritage islamique, je pense, mais pas forcément, parce que en Afrique, il y a aussi la polygamie, en tout cas polygamie, très lourd. Et je le voyais, cette personne, elle était comme un poisson qui est sorti de l'eau, vous savez, qui s'est échoué, qui essaye de respirer, qui s'asphyxie. Et il y a un lien entre les deux choses. Il y a une malédiction qui est liée à la polygamie ancestrale. Alors, si vous reconnaissez, et je voyais en plus que dans cette famille, je voyais un gros crocodile qui dévorait les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts prématurément. Alors, la personne se reconnaîtra peut-être. Amen. Alléluia. On va parler cet après-midi de d'un esprit. J'ai promis de parler des esprits humains. Pourquoi ? Parce que c'est une chose extrêmement importante aujourd'hui dans la délivrance. Il n'y a pas que chez les Africains qu'on les rencontre. On les rencontre chez tout le monde. J'ai commencé à parler hier donc de cette réalité des esprits humains. Nous allons voir les fondements bibliques. On a commencé hier à en voir avec les gens qui peuvent être habités par des esprits de mort. On ne parle pas d'esprits de mort démoniaques, on parle des esprits d'ancêtres. D'accord ? Ce sont des choses qu'on rencontre très couramment dans la délivrance. et qui requiert quelque chose de tout à fait spécial pour la délivrance, parce que ce n'est pas du tout des délivrances comme les autres. D'accord ? Donc, moi, avant de connaître ça, j'ai fait chou blanc sur beaucoup, beaucoup de délivrances, jusqu'au moment où, par grâce, j'ai pu être éclairé par les Africains, que je l'ai mis en pratique, que j'ai vu à ce moment-là complètement mon ministère de délivrance se transformer et que j'ai commencé à obtenir des délivrances là où personne, les gens n'arrivaient, étaient dans le désespoir en voyant, en ayant l'impression que la délivrance n'était pas pour eux. Et nous allons voir que déjà du temps de Jésus, il en était ainsi et que Jésus l'a bien fait remarquer. Amen. Alors, on va d'abord commencer, parce que c'est important, essayer de comprendre ce qu'est la hiérarchie satanique. Ce qui nous sert tout aussi bien dans les combats territoriaux que dans les combats individuels. Car en face de nous, nous n'avons pas forcément les mêmes démons. Il y a des petits démons, des esprits qui partent relativement très facilement. Hein, je dis par une simple repentance et puis une petite prise d'autorité, ils n'ont pas beaucoup de puissance. Mais sachez que plus on est enfoncé dans le péché et les abominations, plus on attire des puissances démoniaques. D'accord ? Et nous avons besoin de comprendre ce qu'est la hiérarchie satanique qui nous est écrite en Éphésiens 6. On va le prendre. Parce que nous allons être concernés par ça aussi dans les délivrances individuelles. Comme les délivrances collectives, comme les délivrances, comme le combat territorial. Alors, Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On nous parle de quatre grandes sortes de démons, je dirais plus que de démons, de domination, de principauté, d'autorité, qui travaillent, eux, avec leur propre légion. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont, sous leurs ordres, après des milliards de démons. Sachez-le bien. Hein, des quantités de démons qui... alors là, on ne peut pas tous les décrire, parce qu'il y en a de toutes sortes. On a dit que par rapport à chaque péché, il y avait des démons. Hein. Donc, il y a les esprits impurs, il y a les esprits méchants, il y a les esprits sorciers... Et puis, selon le degré d'enfoncement dans le péché, ou individuel ou familial, on a affaire à des puissances de plus en plus grandes. Quand Jésus nous a parlé de l'homme fort, qu'il faut lier l'homme fort pour libérer les captifs, l'homme fort peut tenir... Vous savez, toute collectivité a des hommes forts. Vous avez les familles, les villes, les quartiers, les... Et on va en parler tout à l'heure. Et c'est vrai que quelquefois, il faut lier l'homme fort pour arriver à libérer les captifs. Hein. Vous voyez, même Jésus, dans les lettres aux sept églises, parle aux anges des églises. Ces anges, ils ne sont pas très angéliques, si vous regardez bien. Je sais que là où tu demeures, Satan a son trône, ce que j'ai contre toi. Donc on nous parle en réalité, vous savez, dans le domaine occulte, on nous parle, on me parlait dans le temps, mais c'est vous savez, très souvent, les occultistes connaissent beaucoup mieux les réalités spirituelles que les chrétiens. Hein. Vous avez des indications, par exemple, dans la mythologie, de tas de choses qui sont l'organisation du monde satanique et comment il fonctionne. Et nous allons voir que c'est tout à fait biblique, parce que la Bible reprend certaines de ces appellations. On nous parle de Diane, on nous parle de tas de principautés qui étaient dans les mythologies. Hein, Diane, Artémis, on voit dans les actes, on parle de ça. Et les mythologies, croyez-moi, sont une source, une mine d'informations. Mais aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'aller chercher dans les mythologies, parce que dans les films pour enfants, vous avez déjà toutes les réponses. Et dans les films de science-fiction, il y en a, c'est effrayant de voir à quel point c'est un reflet du monde satanique. C'est impressionnant. Quand on connaît le monde satanique... On regarde certains films, c'est le reflet très exact, parce qu'ils n'inventent rien. Les gens n'inventent rien. Hein, ils reflètent ce dans quoi ils vivent, en réalité. Vous savez, par exemple, on dit que les ivrognes, quand ils font des... Comment ça s'appelle, là, les déliriums. Les déliriums. ils voient des tas de choses complètement fantasmagoriques qui les terrifient. En réalité, ils sont mis en contact avec le monde satanique. Alors, ils voient des animaux monstrueux, etc. Mais moi, je peux vous dire que ça existe dans le monde spirituel satanique. Les gens n'inventent rien. 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 Alors, c'est des indications, et quand on vous dit qu'il y a des esprits animaux qui se promènent, ou qu'on a vu, même la parole de Dieu nous dit, parle de serpent. Satan qui est déguisé en serpent, on nous parle de l'hippopotame, on nous parle de crocodile, on nous parle de léviathan, on nous parle de monstre marin, on nous parle de tas de choses. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir des choses. Mais ce sont des réalités spirituelles. Hein, c'est pas du symbolisme, ce sont des réalités spirituelles. Et nous lisons souvent ça sur un plan symbolique. Amen. Alors, on va parler des dominations. Le royaume de Satan, vous savez, il est très, très compliqué de comprendre comment il fonctionne et comment il marche, parce que, comme le monde entier est sous la puissance du malin, le monde tel qu'il est organisé est pratiquement le reflet du monde satanique. Vous avez des systèmes pyramidaux partout avec des hiérarchies, hein, des hiérarchies démoniaques, et Satan règne sur tout ça. On dit dans le monde que pour régner, il faut diviser. Satan divise. Le royaume n'est pas divisé, mais lui, il sait très bien diviser ses dominations entre elles pour qu'il y ait des conflits. Il y a beaucoup de conflits dans le monde démoniaque. Il y a de la peur, c'est un royaume de peur, de terreur. Et Satan est entouré d'une garde personnelle. Et puis, il règne à travers ce qui est décrit ici très rapidement, à travers les dominations, les autorités. Alors, nous allons comprendre un peu. Les dominations, vous avez des dominations, par exemple, la mort est une domination. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des dominations sur les eaux. Et on nous parle, en Jérémie 44, par exemple, de domination sur le ciel. On nous parle de la reine du ciel, dans Jérémie. On nous parle du monstre marin, du léviathan qui est dans la mer. Ce sont les dominations sur les eaux. Donc ça, c'est des dominations mondiales. On nous parle de Satan comme le prince de la puissance de l'air. Donc il y a une puissance de l'air. Ce sont des dominations mondiales. Il y a des dominations sur les forêts, il y a des dominations sur les montagnes. Je voudrais juste citer, par exemple, à propos de dominations sur les montagnes, parce que ceux qui sont dans l'occultisme connaissent très bien, 1 Roi 20-23, pour vous dire, je cite très rapidement, parce qu'en fait, il y a plein de références dans la Bible. Quand on arrête de vouloir le regarder avec notre intellect, mais qu'on commence vraiment à parler, les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, le roi de Syrie, ils étaient dans l'occultisme jusqu'au cou, hein. Leur dieu est un dieu de montagne. Pourquoi? Ils vont combattre sur les montagnes, zut, le dieu d'Israël, les combats et gagne sur les montagnes. Donc ils ont l'habitude du dieu de montagne. Et vous savez, je l'ai dit hier pour les différentes formes de sorcellerie, ils vont s'adresser à des dominations différentes selon le type de sorcellerie, hein. Quelquefois ils leur donnent des noms. Quelquefois, ils leur donnent des noms. Comment est-ce qu'on appelle déjà la sirène des eaux en Afrique? Mambiawata, voilà. Alors, ils leur donnent des noms bien gentils, sympathiques. Alors que ce sont des grandes dominations qui dominent sur toute l'Afrique, vous voyez. Domination des eaux. Hein, domination des eaux, ils lui ont donné, non. Mais dans la mythologie, ils ont repris aussi le nom qui est donné dans la mythologie, qui est la sirène des eaux. On va en parler, parce que c'est une domination qu'on retrouve chez les personnes très courantes. Mais je ne vais pas forcément parler cet après-midi, parce que toutes les après-midi, je vais décliner un certain nombre d'esprits. Hein? Chose très précise. Et le soir, j'aurai plus des messages qui englobent qui sont plus généraux, puisqu'on a plus de monde forcément le soir. Hein? Donc les choses plus techniques seront l'après-midi. Hein? Parce que j'estime que ceux qui viennent l'après-midi et le soir veulent vraiment avoir un maximum pour être équipé, pour aller délivrer les frères. Amen. 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 Alléluia. Mais bon, il y a ceux qui ne peuvent pas aussi, puis ils prendront les CD. Hein. Amen. Donc, il dit, leur Dieu est un dieu de montagne, c'est pour ça qu'ils ont été plus forts que nous. Ben oui, parce qu'ils vont sacrifier à des dieux, qui ne sont pas des dieux, dit la parole, mais des dominations sataniques. Hein. Donc là, on nous parle des dominations, et donc, vous en avez des tas qui sont cités dans la boîte. Alors, il y en a sur les forêts, il y a des dominations. Les druides s'adressent aux dominations des forêts. Les marabouts aussi, avec les djinns, s'adressent aux dominations des forêts. Et puis, les djinns sont tous les démons qui travaillent avec les... Bon, vous savez, il y a des tas de choses qu'on sait, qu'on a entendues dans des légendes, dans les trucs. Et puis, on n'a pas compris que ça recouvrait des réalités spirituelles. Par exemple, j'ai parlé hier des voyages astraux. Alors on va dire, ah oui, c'est en Orient, c'est en Afrique, mais dites donc que toutes les légendes qu'on a des sorcières qui se volent sur des balais la nuit, c'est quoi? C'est une image qui figure ces voyages astraux, ces sorcières qui volent de nuit, qui sortent de nuit pour aller se réunir et faire des cérémonies occultes et des sacrifices humains. En décembre dernier, je décide de regarder un Harry Potter à la télévision. Parce que je dis, depuis le temps que je dis qu'il faut se méfier des Harry Potter, il faudrait peut-être que j'en regarde un pour en parler savamment. Et je tombe, je crois que c'était l'école des sorciers. Mais j'ai été affolée de voir ce que les enfants regardaient. On leur donne littéralement l'initiation pour devenir sorciers. Et en plus, des gentils sorciers. Pour combattre les vilains sorciers. Et on leur donne le goût d'attraper ces pouvoirs, de chercher ces pouvoirs occultes pour sortir la nuit, pour sortir de leur corps, etc. Mais vous vous rendez compte, on n'est pas dans des petites légendes, hein, c'est un véritable manuel d'initiation. J'étais effaré par des phrases que j'ai entendues quand je pense qu'on monte ça à des bambins de 5 ans. On a envoyé à un moment donné un sorcier, alors bénéficiant de toute l'aura possible et inimaginable, considéré comme un grand sage. Et il y a le petit Harry Potter qui arrive devant lui, qui l'écoute bouche-bée, parce que considéré comme un grand sage, et qui dit, et le grand sage en question dit, tu sais, le bien et le mal, ça n'existe pas. Voilà ce que les enfants entendent. Pour vous dire quand même que, ouvrons les yeux sur les temps qu'on vit, hein, mais ouvrons les yeux aussi parce qu'on voit arriver dans les églises des gens dans un état chaotique, lié des pieds à la tête, et c'est pas réservé, je peux vous le dire, aux Africains, aux Guadeloupéens, aux Antillais, aux Guyanais, aux autres. Je vous assure qu'il y en a tout autant chez nous, tout autant, et que je dois délivrer les mêmes démons, que ce soit les Français, les Anglais, les Suisses ou autres, c'est pareil, hein. Mais simplement nous on le sait pas, eux ils le savent. Pensez bien que si une sœur... Tu es d'Afrique, Patricia? Non, tu es du Sénégal. Si une sœur africaine qui baigne dedans n'ose même pas en parler, qu'en est-il dans nos pays rationnels? Donc on a parlé des dominations qui nous sont décrites, hein. Même la parole de Dieu dit, Jésus dit le dernier ennemi à vaincu, ce sera la mort. Donc on nous parle d'une puissance particulière. Satan lui-même prend des tas de noms dans la parole de Dieu, hein, parce que selon la manière dont il travaille et dont il est, les domaines qu'il touche, il y a le roi de tir, le truc, etc. Bon. Les autorités, entre les autorités et les dominations, je ne peux pas dire que ce soit très très clair dans ma tête, hein, parce que c'est pas si simple que ça. Il y a des chevauchements, hein. Alors, j'aurais pu mettre dans les dominations, mais je peux les mettre aussi dans les autorités, une puissance énorme que Jésus a dénoncée, c'est Mammon, le dieu de l'argent, le dieu qui domine sur toutes les finances et les transactions financières et qui tient tout le monde entier actuellement. Jézabel, dont la mission est de détruire les couples et de détruire la religion chrétienne. La sirène des eaux, qui est de régner sur tout ce qui est sexualité, de la détruire pour conduire dans l'impureté et toutes les perversions, tous les vices, l'homosexualité, etc. Chacun a leur domaine d'activité. On aura l'occasion la reine du ciel, dont nous parle Jérémie, qui est de pervertir la religion chrétienne de manière à donner une mère céleste au lieu d'un père céleste. On en a un peu parlé. par la séduction, parce que je vais parler plus particulièrement des esprits féminins, parce que le Satan peut travailler par l'oppression ou par la séduction. Mais nous avons des dominations, par exemple, sur les autoroutes, sur les voitures. Vous savez ce qui est très amusant ? C'est pas très amusant, c'est plutôt triste, mais c'est intéressant en tout cas. C'est de voir que s'il y a des dominations des autorités, je veux dire, sur toutes les activités humaines, là, dans le catholicisme, on a donné des saints morts pour régner sur les mêmes activités. Il y a tel saint qui est censé protéger les toubibs, d'autres qui sont censés protéger les voitures, d'autres qui sont censés protéger... Et en réalité, cherchez bien, et derrière, il y a des dominations sataniques. Parce que, comme on l'a vu et comme on l'a lu hier après-midi, eh bien, les morts n'ont aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Point final. Alors, quand on invoque des morts pour nous protéger en voiture, pour nous protéger dans il doit y avoir un saint patron des ambulanciers, un saint patron des pompiers, un saint patron de ceci. Ben écoutez, moi j'ai qu'un patron, hein, parce que le Seigneur a dit, n'ayez pas d'autres maîtres que moi. C'est simplement le simple fait de les appeler patrons, attendez, hein, de les appeler pères, de les appeler patrons, de les appeler... Moi j'ai qu'un patron. Et ça me suffit. Il est suffisamment grand pour régner sur tout. Et me protéger dans tout. Voici, je suis avec vous tous les jours et dans le monde entier. Amen. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Hein? Mais sachez que derrière tous ces patrons qu'on met, mais en réalité, il y a des dominations. Ça fait partie des autorités ou des dominations qui ont... Satan donne comme ça, il met, comme un patron, hein, il met des patrons pour s'occuper l'un de ceci, l'un de cela. Il a ses ministères, il y a le ministère de la santé de Satan qui consiste à donner de la mauvaise santé, il y a le ministère des transports qui consiste à envoyer plein d'accidents, et puis il a évidemment tous les sorciers, tous les satanistes et autres pour envoyer des malédictions. Vous savez, il y a des lieux où régulièrement se passent des accidents parce qu'il y a des satanistes qui vont travailler là, et puis on ne comprend pas, c'est la ribambelle d'accidents. Moi, je me souviens, un jour j'étais en Guadeloupe et puis on m'a montré un lieu où régulièrement il y avait des accidents et il y avait des sorciers qui se réunissaient là pour envoyer des malédictions sur ce lieu. Bon, ça fait partie des autorités sataniques. Bon, sur le commerce, sur la politique, sur la politique, on a un saint franc-maçonnerie pour régner sur la politique. Les Illuminati, etc. Donc, qui sont vraiment... J'ai mis la science, Dieu donne la science, et il y a des dominations et des autorités sataniques pour pervertir la science, vous comprenez ? Dans tous les domaines, Satan met son ivraie. Jésus a dit, il y a le blé, et puis il y a l'ivraie. Donc, rien n'est mauvais en soi. La télévision n'est pas mauvaise en soi, mais il y a le saint patron de la télévision d'origine satanique, et qui s'arrange pour y mettre toute l'ivraie qui est possible et inimaginable. Il y a aussi le saint Internet. Hein. On fait ce qu'on... c'est comme ça qu'est organisé le royaume de Satan. Bon. Il y a... Alors, toutes les formes, l'architecture, etc., tout peut être perverti. Hein. On peut avoir un lieu magnifique au point de vue artistique, comme on l'est ici, mais dans les fondations, il y a eu des choses diaboliques qui ont été mises. Vous comprenez ? Il y a eu des sacrifices humains ici. Lors de la révolution, il y a eu des massacres ici. Et puis quelquefois, souvent dans les fondations des maisons, il y a eu des choses qui ont été mises. Et vous vous étonnez après qu'il n'y ait que tous les gens qui passent dans ces maisons, il y ait des malédictions, des choses comme ça. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Dieu avait dévoué certains lieux par interdit. Hein, parce que c'était pas la peine d'aller faire un petit onction d'huile. Hein. C'était dans les fondations même qu'il y avait des choses. Donc il fallait tout détruire. Quand Dieu a ordonné que Jéricho soit rasé, c'est parce qu'il n'y avait rien de bon ni à récupérer, même pas les animaux. Quand Dieu a ordonné à Samuel même de dévouer les animaux par interdit, de tous les tuer. Mais pourquoi ça, avec notre sensibilité, la moderne, oh là là, mais pourquoi ces pauvres petits agneaux, ils n'avaient rien fait, ces pauvres... Mais est-ce que vous savez que quand il y a une activité humaine démoniaque autour des animaux, les animaux chopent les démons? C'est pas pour rien que les sorciers travaillent avec certains animaux, notamment qui voient la nuit. Parce qu'ils ont besoin de se mettre dans les animaux qui voient la nuit, de les mettre à leur service pour aller contrôler, ils mettent leur esprit dedans pour aller contrôler les gens, alors les chats, les hiboux, les chouettes, etc., etc. je fais que survoler, hein, parce que si je commence à vous parler de tout ça, demain matin, vous êtes encore là. Hein. Je fais que survoler. Mais tout ça, il y a des fondements. Quand on le voit dans l'histoire du Gadarénien, il demande la permission d'aller dans les ports. Et vous avez 2000 ports qui vont se suicider. Et les ports, c'est pas les moutons. C'est pas parce qu'il y en a un qui se jette que les autres suivent. Ça veut dire que les 2000 ports ont reçu des esprits de mort. Et les 2000 ports, c'est le porc et l'animal, pour ceux qui ont été un petit peu dans le monde paysan, ou dans le monde, oui, agricole, c'est l'animal qui résiste le plus à la mort. Alors là, je peux vous dire qu'il se laisse pas tondre comme un mouton, ni abattre comme un mouton. Il résiste de toutes ses forces à la mort. Qui a déjà vu, hein, ce qui se passait comme ça au niveau des porcs. Ça nous est pas dit pour rien. Je veux dire que pour que 2000 porcs aillent se suicider, c'est que des puissances de mort terribles sont tombées sur chaque porc. Individuellement. C'est pas parce qu'il y en a un qui va se jeter par la flèche que les autres font suivre, hein. Ne croyez pas ça. Donc, on a des fondements bibliques dans tout ça. Si Dieu avait dit qu'il y avait des animaux impurs, dans l'ancien temps, c'est qu'il y avait des animaux qui étaient beaucoup plus sensibles aussi à toutes les dominations démoniaques. Pas pour nous embêter. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, on peut manger de tout. Manger tout ce qu'il y a sur le marché, nous dit la parole. Merci Seigneur. Ça élargit le champ de notre assiette. Alléluia. Alors, on va parler aussi des principautés. Et bien, il y a aussi les dominations territoriales. Et vraiment, on peut dire que les démons sont aussi divisés en territoires. Et curieusement, les frontières territoriales qui existent dans le monde sont les mêmes que celles qui sont pour les démons, puisque le monde entier est sous la puissance du malin. Donc pour chaque pays, il y a des ordres de démons sous la coupe de princes démoniaques qui sont les princes de ces territoires. Alors, on va voir les fondements bibliques, Daniel 10. Mais rappelez-vous que dans l'histoire du Gadarénien aussi, les démons suppliaient de ne pas les envoyer hors du pays. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un démon qui dépasse son territoire se fait massacrer par les autres démons dehors. Chacun, vous savez, comme les chiens, chacun son territoire. Marquent leur territoire et marquent leurs frontières. Et dans le monde satanique, vous savez pourquoi les gens... Je vais vous faire sourire, mais c'est une réalité. Vous savez pourquoi vous avez un sentiment de bien-être souvent quand vous partez en vacances? C'est parce que vos démons ne vous suivent pas tout de suite. Parce qu'ils n'aiment pas trop aller dans les autres territoires. Mais vous pouvez revenir avec d'autres et vous retrouvez ceux que vous avez laissés à la maison, vous les retrouvez. Je m'étais posé la question, quand je revenais d'Afrique, de certains pays, pendant 2-3 jours, j'avais une forme olympique. Il y a l'onction de Dieu qui était encore sur moi. Et puis 3 jours après, bam! Des contre-coups, des gros, gros combats que j'avais menés sur place. Et je me suis posé la question, puis j'ai posé la question à des gens qui connaissaient bien ce problème. Et ils m'ont expliqué, mais c'est parce que on t'envoie des démons de poursuite depuis l'endroit que tu as quitté, parce qu'il y a la haine du monde sorcier dans lequel tu es allé castagner, il y a la haine du monde démoniaque. Mais avant que les démons puissent franchir la frontière, il faut qu'ils négocient. Ils font des échanges. Je vous assure que c'est comme dans le monde réel. Ils font des négociations. Bon, je te laisse passer, tu me laisses passer, on s'échange. Qui connaissait ces réalités? Qui en a entendu parler? Oui, il y en a là-bas. Vous venez d'où? De quel pays? Ah ben d'accord, ouais, on est en pays copain là. Guadeloupe, d'accord.
Moi j'ai vécu aux Antilles pendant 2 ans et j'avais entendu des Antillais qui disaient, parce que ça avait des problèmes dans leur pays natal, il fallait qu'ils quittent le pays et qu'ils traversent la mer, et chaque fois qu'ils traversaient la mer, ils pensaient que la mer était une forme de purification.
Oui, ils laissaient quelques temps leurs démons, mais après ils les rattrapaient. C'est pour ça qu'il y a souvent un décalage, on rentre très très bien, on part en vacances. Sentiment de légèreté. Et puis, bon. Mais c'est pas comme ça, parce que moi, je préfère les bonnes délivrances. Et puis, en tout ça, on n'en parle plus. Oui, tu voulais dire quelque chose? Attends, je vais répéter pour qu'on puisse l'enregistrer éventuellement, mais je t'entends pas. D'accord. Donc Patricia explique que chez elle, puisqu'on a entendu son témoignage tout à l'heure et d'où elle revient, qu'elle voyait chez elle une cinquantaine de démons qui, pour savoir celui qui allait venir la castagner. Ils se battaient entre eux, oui, ils se battent entre eux. Absolument. Et que, c'est une des raisons pour lesquelles les sorciers sont enragés pour achever leur travail, parce que s'ils mènent leur mission à mal, les démons qui sont dedans savent, et qui les guident, qui les contrôlent, savent qu'ils vont être, mais laminés par Satan, et on va arriver aux esprits guerriers après, hein, parce qu'ils ont loupé leur mission. Et d'ailleurs, beaucoup de sorciers, quand ils ont loupé leur mission, meurent, ou ont des problèmes, sont paralysés, tombent malades, etc. C'est pour ça qu'ils sont enragés à gagner. Donc quand on est à confronter à des bagarres sorcières, je peux vous dire que c'est pas léger, parce qu'une fois qu'ils l'ont entamé, ils n'ont pas d'autre solution que d'aller jusqu'au bout. Moi, je vous ai parlé des sorciers qui m'ont castagné là pendant 5 mois. Ça m'intéresse pas de savoir ce qu'ils sont devenus, mais au moins pour un, je sais que maintenant il est dans un très mauvais état. C'est pas moi qui l'ai voulu, je l'ai béni. Hein. Je l'ai béni. J'ai vu dans la parole qu'il fallait le bénir. De temps en temps, je disais Seigneur, tu vas pas le bénir pour moi, mais bon, je l'ai béni quand même. Alléluia. En tout cas, j'ai aucune acrimonie contre eux, parce que vous savez, la parole de Dieu dit, il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Et Dieu a dit, touchez pas à mes oins. Et touchez pas à mes oins, c'est, je vous parle là de gens qui volontairement veulent nous détruire. Et croyez-moi que tous ceux qui sont dans la délivrance, on en prend beaucoup sur la figure. Hein. Mais j'ai vu avec le temps que les gens qui ont voulu me détruire, je préfère être à ma place qu'à la leur. Je dis pas pour me vanter. Il n'en a rien à voir, c'est une réalité spirituelle. Au final, moi j'ai grande pitié des sorciers parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont régner avec Satan. Ils sont convaincus. Satan les leurre complètement. Et ils sont dans un aveuglement. Non seulement ils font des dégâts épouvantables, mais ils se ramassent parce que la parole de Dieu est claire. Elle dit qu'on récolte ce qu'on a semé. Non seulement c'est toute leur filiation derrière, mais là, quelquefois ils n'en ont rien à cirer. Mais eux aussi récoltent. Eux aussi récoltent. Hein, le proverbe 11 dit, le dernier verset dit, si le juste reçoit sur terre une rétribution, à plus forte raison, le méchant. Hein? On n'a même pas besoin d'attendre d'être mort pour voir les chocs en retour que ça entraîne. Donc j'ai plutôt pitié d'eux. Même s'ils font beaucoup de dégâts, j'ai plutôt pitié d'eux parce que là, ceux qui les attendent de l'autre côté, hein, et, on a des témoignages étranges comme ça de gens qui ont pu visiter là, l'enfer. Ce qui les attend de l'autre côté, c'est l'horreur totale. Les sorciers, ils ont vraiment leur place à part, hein, dans l'enfer. Il y a des places dans l'enfer. Comme il y a des places dans le paradis, Jésus a dit, je vais vous réserver une place. Dieu est juste, donc il y a aussi des places dans l'enfer. Hein. Et il y a des places qui sont un peu plus chaudes que d'autres. Amen. Donc, je voudrais parler donc des principautés territoriales. Alors, toutes les nations ont des principautés, ils ont des anges, avec des qui, et puis des dons particuliers. Chaque pays a reçu, à l'instar des individus, à sa mission dans le monde, à son rôle, à ses points forts, à ses points faibles. Et il a aussi, bien sûr, ses principautés territoriales qui tiennent souvent à l'histoire du pays et à tout ce qu'ont fait notamment leur gouvernement, parce qu'il y a eu souvent des pactes qui ont été faits, etc. Alors, à travers les histoires des villes, des choses comme ça, on commence souvent à se voir, quand on veut délivrer une ville, il faut connaître son histoire. Les démons s'accrochent aussi, ils ont besoin de support matériel. Donc, les monuments sont des... Tous les monuments, les statues, les hauts lieux, les clochers, tous les édifices sont souvent des hauts lieux dans lesquels sont accrochées des principautés. principauté démoniaque. Donc je vais pas, c'est pas mon thème, donc je ne fais que qu'évoquer très très vite, hein. Mais sachez qu'il y a des principautés démoniaques. On va lire Daniel 10. Je vais juste situer le contexte. Donc Daniel vient de, parce que surtout que je vais en reparler, Daniel vient de comprendre qu'il y a eu, vient de lire le rouleau de Jérémie, dans lequel il est écrit que l'exil durait 70 ans. Et puis il s'aperçoit qu'il ne se passe rien. Et ça, on y reviendra ce soir, dans le cas des malédictions ancestrales, parce que c'est pas du tout cuit, c'est pas parce que la prophétie a été faite et qu'elle est que nous n'avons pas notre part à faire pour que la promesse s'accomplisse. Donc la délivrance n'a pas. Et Daniel va comprendre qu'il a une part à faire. Et ça, on en reparlera ce soir. Mais ensuite, il va jeûner 21 jours, et là, il va avoir une apparition céleste extraordinaire, car c'est Jésus lui-même qui lui apparaît. C'est évident. Hein, dans la description qui nous est faite de l'homme vêtu de blanc qui se tient devant lui est strictement la même que celle qu'on retrouve en Apocalypse 1. Hein. Donc c'est Jésus avant qu'il vienne en chair et qu'il, donc d'ailleurs des théophanies de Christ, il y en a tout le long de l'Ancien Testament. Vous savez, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Hein. Et c'est pour ça que Jésus, quand il a dit avant qu'Abraham fût, je suis, il parlait de Melchisédek qui est apparu, dont nous parle la lettre aux Hébreux. Bon. Et là, Daniel est là, et puis tout d'un coup, il voit apparaître cet homme en blanc avec un écriteau, etc. Ben oui, il y a un écriteau, il y a un machin. Ben oui, Jésus est la parole de Dieu, donc il écrit. Et il a pas, quand il apparaît, évidemment, Daniel, parce que quand on voit vraiment le Seigneur dans sa gloire, il se met à trembler. Et puis il dit, il y même dit, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Je veux dire que quand on est face au Seigneur, bravo, on ne tient pas beaucoup debout. Et au verset 12, il est dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, ça veut dire 21 jours plus tôt, il n'a rien vu pendant 21 jours, mais il a persévéré. Alors c'est très intéressant ce passage pour comprendre ce qui se passe quand on intercède. On ne voit rien quelquefois pendant longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Il se passe des choses dans les lieux célestes. Mais quelquefois on ne le voit qu'au bout d'un certain temps. Tes paroles ont été entendues, donc dès le premier jour. Elles ont percé le ciel. Et c'est à cause de tes paroles. Et ces paroles, vous pourrez lire Daniel 9, mais on va en parler ce soir. Que je viens. Donc c'est à cause de tes paroles que je viens. Vous voyez, regardez la puissance de l'intercession. Le chef du royaume de Perse. Est-ce qu'il s'agit du roi de Perse en chair et en os qui est là? Bien sûr que non. Il s'agit de la principauté démoniaque qui tient la Perse. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc exactement le temps depuis le moment pile où le combat s'est passé, où il a commencé à intercéder. Un combat, une guerre s'est déclenchée dans le ciel. Mais la principauté est tellement puissante, c'est toujours la même qui est dessus, hein. C'est aujourd'hui c'est l'Irak et l'Iran, hein, la Perse. C'est toujours la même principauté qui est là. Le chef du royaume de Perse m'a résisté, 21 jours, il a résisté à Jésus. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, ben oui, Michaël est... Ah, il est un ange guerrier qui est à la tête des armées de Dieu, hein. L'un des principaux chefs est venu à mon secours. Vous vous rendez compte que c'est une principauté tellement puissante que même Jésus a dû demander l'aide de Michaël. Pour moi qui le dis, c'est écrit. C'est pour vous dire qu'on ne fait pas du combat territorial dans n'importe quelle condition, n'importe quelle puissance. Et n'importe quelle, et sans avoir l'ordre formel de Dieu et avec les équipes qu'il faut. Et comme il faut, parce qu'on n'est pas en train de... Il y a toute une préparation. Hein. Et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Donc il y a le chef des rois et il y a les rois dessous. Donc ça veut dire que le combat a fini par être gagné, mais il y a... Et c'est là que le peuple peut être libéré, parce qu'il était tenu. Quand la parole de Dieu nous dit « Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, etc. » Ils ont intercédé, Daniel a intercédé sur terre. La guerre s'est déclenchée dans le ciel, une guerre géante. Michael avec des armées, des légions d'anges contre toutes les légions démoniaques, mais l'intercession a permis qu'il y ait le combat gagné et le peuple va pouvoir être libéré. C'est vraiment un passage particulier pour l'intercession, de comprendre comment ça commence. Et comment on peut libérer un peuple, hein, qui est sous la coupe des princes territoriaux. Alléluia. C'est pas des petites entités, hein. Donc nous comprenons ce que c'est que les principautés, hein. Vous voyez en Marc 5, 10, justement, où il supplie Jésus de ne pas les chasser hors du pays. Ben oui, parce que hors du pays, ils sont pas le bienvenu, ils sont étrangers, ils ont aucune légitimité à faire quoi que ce soit. Hein. Et c'est vrai pour les familles. Et il m'arrive souvent, il faut le savoir, et on peut l'avoir, à libérer les gens. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu à libérer quelqu'un de l'esprit d'Angleterre. J'ai eu à plusieurs reprises à libérer des gens de l'esprit du Vietnam, du prince du Vietnam, du prince du Cambodge. C'était des gens qui étaient bien sûr originaires de ces pays et qui avaient toutes les grandes caractéristiques. Alors, le prince du Vietnam, c'est un esprit guerrier épouvantable et d'un orgueil épouvantable et qui lie pratiquement tous les gens qui sont au Vietnam et qui explique beaucoup de leur histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on a une belle domination en France, ça s'appelle Bacchus. Prince du vin. On en a plein, on n'a pas que celle-là. Hein. La reine du ciel trône, parce que la France a été liée je ne sais pas combien de fois à la reine du ciel. On en a un paquet en France, hein, de domination. Donc on a la sirène des eaux aussi. Bon, on en parlera, donc je ne vais pas... On a beaucoup qui règnent aussi sur la mode, sur les parfums, sur les choses, etc., qui peut faire des très belles choses. Et puis, bon, et puis à côté, bon, il y a aussi des dominations, de la musique, il y a des dominations qui sont là pour pervertir la musique. Tous les dons que Dieu a donnés à l'homme, Satan met des dominations pour les pervertir. Donc nous comprenons bien, parce que nous pouvons être confrontés aussi, même dans une délivrance d'individu, à ce type de principauté, parce que c'est évidemment pas le prince de Perse qui est dans une personne, mais il travaille avec des rois, qui travaille avec des sous-fifres, qui travaille avec des lieutenants, qui travaille. C'est une armée, hein. Et puis on a des personnes qui sont liées par des puissances plus ou moins grandes et plus ou moins importantes dans le royaume satanique. C'est toute une hiérarchie. Hein. Mais vous avez des gens qui sont vraiment liés par des grosses puissances territoriales. Et souvent, on a besoin de libérer les gens de l'esprit du Portugal, de l'esprit d'où on est, hein. L'esprit breton, moi je suis breton, j'ai besoin d'être libéré de l'esprit breton. Vous savez, l'entêtement. Mais non, mais souvent on dit, les bretons sont entêtés. Attendez, c'est parce qu'il y a des puissances aussi là-dedans. C'est pas une qualité quand même d'être entêté. Voilà. Alors je vais parler maintenant des esprits humains, parce que je pense qu'on les a évoqués hier et que pour beaucoup d'entre vous, vous avez été un peu dérangés, un peu secoués en disant c'est quoi ? Vous avez encore des doutes, vous ne comprenez pas très bien, vous devez vous poser beaucoup de questions. Bon, nous avons cité Lévitique 20, 27, où on nous parle, si quelqu'un a en lui l'esprit d'un mort, donc un fantôme, un spectre, il s'agit bien d'esprits d'ancêtres et non pas du tout de gens qui sont morts. Alors, moi, quand j'ai commencé à être confronté avec ces réalités, j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Parce qu'après tout, quelqu'un meurt et puis... son âme n'est plus là, tu dis de ne pas parler aux morts, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'esprit? Parce que je faisais une confusion entre l'âme et l'esprit. L'âme, nous l'avons vu, c'est clair, elle passe en jugement, et l'âme, c'est clair, Jésus a dit, celui qui me croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour, donc l'âme passe en jugement, c'est elle qui pèse, c'est elle qui mourra, dit la parole de Dieu, hein. Et donc, d'ailleurs, le langage populaire, ne s'y trompe pas, il parle de rendre l'âme. Vous savez, le langage populaire est souvent très parlant, hein, très parlant. On rend l'âme, hein. On parle d'un village, on dit il y a tant d'âmes. Parce que ce qui est important, c'est pas les corps, c'est les âmes, hein. C'est la personnalité, c'est la vraie personne, l'âme, hein. L'enveloppe, le corps est une enveloppe, mais la vraie personne, c'est l'âme, c'est sa personnalité, ses sentiments, sa volonté, son vécu, sa mémoire, tout ça est contenu dans l'âme. Mais l'esprit, nous en avons parlé un peu hier soir, l'esprit est quelque chose de particulier. Et puis, j'étais là, je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe alors au niveau des esprits au moment où la personne meurt? Et là, le Seigneur m'a conduit dans la parole et je me suis aperçue avec beaucoup d'étonnement qu'il n'y avait que deux personnes qui avaient dit ce qu'elles rendaient leur esprit à Dieu. Jésus, Père, je te rends mon esprit. Ben oui, son esprit était pur. J'ai dit hier qu'un esprit humain pouvait être un esprit impur, qui est souillé. Et surtout, un esprit complètement manipulé dans la sorcellerie, rempli de démons. Hein? Parce que les démons, ils ont trois champs de bataille. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Hein? Eux, ils connaissent les trois très bien la différence. Alors, Jésus a dit, je te rends mon esprit, Père, je te rends mon esprit. Et Étienne, quand il est mort, il a dit, je te rends mon esprit. Parce que son esprit, attendez, il venait de voir la gloire de Dieu, il était purifié par le sang de Jésus. Et son esprit est reparti. Ça veut dire qu'un chrétien qui est véritablement lavé de toute souillure, son esprit est pur. D'ailleurs, la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous demande que tout soit conservé pur, le corps, l'âme et l'esprit. C'est la différence entre les trois. Hein? Et on a plusieurs exemples comme ça qui posent problème, mais on va les citer. Donc, l'esprit d'un chrétien né de nouveau, qui marche avec le Seigneur, qui est lavé par le sang de Jésus, direct la maison du Père. Amen. Mais qu'en est-il des esprits impurs? Dieu ne supporte rien de ce qui est impur. Alors on va lire déjà Ecclésiaste 12. Nous avons besoin de connaître ces réalités. Vous savez, quand on veut faire de la délivrance, pour bien comprendre la différence entre la purification de l'âme, la purification de l'esprit. Bonjour Robert. Alléluia. Je vais le présenter, c'est le pasteur Robert Baxter, qui est mon pasteur. Et je le remercie d'être là. Donc, on va lire ce passage d'Ecclésiaste, qui est un passage très mystérieux. Mais qui, vous savez, c'est Salomon qui l'a écrit, et Salomon connaissait beaucoup de réalités spirituelles. Et là, justement, le passage de tout le livre de l'Ecclésiaste est plein de choses. On sait que Salomon, il a, avec ses 700 femmes et 300 concubines, dont beaucoup d'étrangères, il a été initié à beaucoup de choses. Hein. Et donc, en même temps, il a compris beaucoup de choses du monde spirituel et du monde sorcier, du monde occulte. Hein. Donc il nous en fait part, il ne rentre pas dans les choses, mais il nous laisse subodorer certaines réalités spirituelles. Alors, on lit à partir du verset, on nous parle de la mort, hein, du processus de la mort. Et il dit, avant que le cordon d'argent se détache, alors je vais m'arrêter un instant sur ce problème de cordon d'argent, c'est aussi très important dans le domaine de la délivrance, parce qu'il faut savoir que quand les sorciers sortent en esprit, ils restent reliés à leur corps par le cordon d'argent. Et quelquefois, on est obligé de menacer, on va y revenir aux esprits humains, on est obligé de menacer, de couper le cordon d'argent. Quand ils sont un petit peu trop obstinés, on y reviendra aussi. Que les vases d'or se brisent. Anamédès donne une très bonne explication hein, pour ces choses. Que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, c'est très mystérieux. Je n'ai pas toutes les réponses, donc je ne vais pas rentrer dedans. Il y a simplement certaines choses que le Seigneur m'a montrées, notamment le vase d'or se brise. C'était justement toutes les connaissances qui ne venaient pas de Dieu. C'est la proposition que Satan a faite. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais attendez, il se passe un sacré bout de temps là. On ne sait pas combien de temps se passe entre les deux. Vous savez, il existe des choses très mystérieuses dans la parole, mais qui nous laissent subodorer, qu'il se passe des choses par rapport aux esprits humains, de gens qui sont morts sans être sanctifiés, ces esprits qui n'ont pas été sanctifiés et purifiés, qui nous laisse entendre qu'il se passe beaucoup de choses qui nous sont mystérieuses, qui ne nous ont pas été totalement données en éclairage, mais où le Seigneur nous éclaire souvent dans des délivrances en particulier. Alors, on va lire déjà 1 Pierre 3, 19. Vous verrez que ça laisse entendre qu'effectivement nous avons des esprits qui peuvent, des esprits humains qui peuvent se promener ou qui peuvent être encore là. On nous parle de Jésus. Alors Jésus, ayant, on va prendre à partir du verset 18, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, là donc on parle de Jésus mort quant à la chair, mais vivant quant à l'esprit, dans lequel, donc dans son esprit,